L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bienvenue, c'est mieux, on va y aller, on va prendre une bonne respiration pour la dernière émission de cette semaine. Vous êtes bien dans l'AJT du local, nous sommes le vendredi 15 janvier. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval toujours. Il fait un peu plus chaud aujourd'hui, ça fait plaisir, on est dans les 10 degrés, écoutez, c'est fou.
Merci pour notre petite Miss Météo, en tout cas pour ce petit point. Aujourd'hui, on va aussi parler du pays de Mélégri qui consulte ses habitants sur la santé, l'offre du territoire, leurs besoins. Nous verrons quel est l'intérêt de ce questionnaire qui est proposé jusqu'à la semaine prochaine. On va parler aussi d'un beau projet solidaire de 4 étudiants originaires du département qui s'investissent avec l'association Une Enfance au Sénégal. Et puis en fin d'émission, la chronique Service Civique, comme chaque vendredi, fait escale aujourd'hui à l'Île-Dieu en Vendée.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, le couvre-feu avancé dès demain à 18h.
C'est l'une des principales mesures annoncées par Jean Castex hier soir. Le Premier ministre a évoqué un couvre-feu à 18h dans tout le pays et non dans 25 départements à partir de demain samedi pour une durée de 15 jours. Les dérogations restent les mêmes pour rentrer du travail ou aller chercher vos enfants par exemple. Les écoles restent ouvertes mais le protocole sanitaire est renforcé dans les cantines, les cours de sport suspendus en intérieur et les dépistages multipliés. Dans les universités, les premières années pourront reprendre leur TD en demi-groupe dès le 25 janvier et à partir de lundi pourront se faire vacciner toute personne ayant une pathologie à haut risque. Ce couvre-feu généralisé est une erreur pour Christelle Morançais. La présidente de la région plaide pour des mesures territorialisées en fonction du taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants.
Pas d'effet exponentiel, mais des indicateurs très élevés.
Oui, c'est ainsi que décrit la situation sanitaire Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé. En Mayenne, le taux d'incidence augmente justement à 148,3 cas pour 100 000 pour la population générale et à 185,1 pour les plus de 65 ans. Le taux de positivité reste stable autour de 7%. Dans la région, plus de 12 000 personnes ont déjà été vaccinées. Dès lundi, la vaccination concernera aussi les résidents et soignants des EHPAD qui ne dépendent pas de l'hôpital, mais surtout aussi les personnes de plus de 75 ans. 3 centres de vaccination sont mis en place en Mayenne, ouverts de 8h à 20h, à l'espace Saint-Fiacre à Château-Gontier, à la salle polyvalente de Laval et au pôle santé de Mayenne. Réservation désormais possible par téléphone au 02 43 53 53 00. Mais attention, le centre d'appel est submergé depuis ce matin. On rappelle donc que vous pouvez toujours vous inscrire la semaine prochaine et les jours qui vont suivre et que vous pouvez aussi utiliser la plateforme doctolib.fr. Toutes les infos sont disponibles sur santé.fr.
Dans la région, un quatrième cas de Covid-19 avec un variant étranger.
Près de Nantes, une personne a été testée positive au coronavirus avec une variante sud-africaine. Elle aurait vraisemblablement contracté le virus lors d'un voyage au Mozambique pendant les fêtes de fin d'année. Dans sa famille, des cas secondaires ont été identifiés et ont reçu des consignes d'isolement. L'ARS poursuit ses investigations.
Une secrétaire d'État en Mayenne ce matin.
Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, était en visite ce matin au collège REP Plus Alain Gerbeau à Laval, avec la volonté de souligner les efforts des personnels du collège pour éviter le décrochage des élèves pendant cette crise sanitaire, mais aussi le dynamisme des activités culturelles, avec notamment une classe à horaire aménagé théâtre.
Le secours alimentaire ferme ses portes à Château-Gontier.
L'association créée en 1984 a été victime de la crise sanitaire. Le secours alimentaire ne distribuera plus ses repas toutes les semaines, ce qui explique sa disparition, le manque de moyens et un local qui devenait trop petit. Au premier confinement, les bénévoles, souvent âgés, n'avaient pas pu se mobiliser normalement.
Nouvelle manifestation contre la loi Sécurité globale à Laval.
Après le 28 novembre et le 12 décembre, la Ligue des droits de l'homme en Mayenne et le collectif qu'il réunit organisent un nouveau rassemblement demain à 10h30, place du 11 novembre à Laval. Les manifestants exigent le retrait total de la loi Sécurité globale qui permettrait selon eux la récolte massive des données personnelles des citoyens et rendrait presque impossible le dévoilement des actes de violence commis par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Baromètre des actions publiques, le 8 mai d'Olivier Richefou.
Le président du conseil départemental de la Mayenne salue la mise en place par le gouvernement d'un baromètre pour mesurer le déploiement des réformes engagées depuis 2017. Les Français ont besoin de transparence, le baromètre y participe, appuie-t-il. Avec un bémol tout de même, l'absence de mention des élus locaux. Le gouvernement n'est pas à l'origine du développement des maisons médicales, de la fibre ou même des kilomètres de pistes cyclables, rappelle Olivier Richefou. Ce baromètre, c'est aussi celui des élus locaux.
Le quartier Saint-Nicolas à Laval, bientôt un territoire zéro chômeur de longue durée.
Laval Agglomération envisage de candidater au dispositif. Et pour s'y préparer, le maire Florian Bercot et Patrice Morin, conseillers délégués à la politique de la ville, se sont rendus mercredi à Pipriac et à Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine. Ils y ont découvert Tesea, une entreprise à but d'emploi, dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Florian Bercot compte bien s'inspirer de cette expérimentation bretonne pour une future application du dispositif au sein du quartier prioritaire Saint-Nicolas.
Le Mayennais Marc Madio soutient le journal L'Équipe.
Le patron de la formation cycliste Groupama FDJ a envoyé un courrier de soutien aux journalistes de L'Équipe qu'il considère comme son journal préféré et sa lecture comme un moment de bonheur, une source d'espoir en cette période anxiogène. Les collaborateurs du quotidien sont en grève depuis plusieurs jours pour dénoncer un plan de licenciement où une cinquantaine de postes sont menacés.
Et le foot, le stade Lavallois se déplace à Avranches ce soir.
Avec le retour dans l'effectif du stade Lavallois de Prince Mendy et de Pierrick Croix, blessés la semaine dernière, Laval 7e affrontera les Normands, 10e du championnat de national. Coup d'envoi du match à 18h30.
Et sur la route du Vendée Globe, Charles Dalin conserve sa première place.
Charlie Dalin, toujours premier, et oui, au large des côtes brésiliennes, suivi par Louis Burton et Boris Herman. À la 10e place, on retrouve toujours Maxime Sorel sur son bateau VNB Mayenne.
À la une du Haut-Anjou aujourd'hui, une question: doit-on changer le nom des habitants des communes nouvelles ?
Un avis partagé selon les municipalités. Les habitants de Laigné et d'Empoigné, réunis en Pré d'Anjou, s'appellent les Préens, jusque-là plutôt logique. Mais pour Château-Gontier-sur-Mayenne, pas question de changer de nom. À Bazouges vivent toujours les Basiliciens, par exemple. Dans l'hebdomadaire également, une interview du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Créé en 2015, ce collectif regroupe près de 300 adhérents. Il cherche à soutenir des gens malades à cause des pesticides et à accompagner des habitants qui vivent à proximité de zones d'épandage de ces pesticides. Une tablette de chocolat pour soutenir les commerçants locaux. On vous en avait parlé la semaine dernière avec Célia Rouault, la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Château-Gontier. Puisque l'initiative vient de la JCE, le lancement d'une tablette de chocolat emballée dans un plan indiquant les offres de commerce de proximité et de producteurs locaux. 315 entreprises devraient être concernées. Les tablettes seront vendues à partir du mois de février. Et enfin, le témoignage d'un comédien en devenir, Pierre-Arthur Lemoine. Originaire de Saint-Fort, il est en troisième année au cours Florent à Paris, en cursus comédie musicale théâtre, et rêve de remonter sur scène après des cours en visio au printemps dernier et en ce moment des cours de danse, théâtre et chant avec le masque. Mais le comédien a déjà des projets pour 2021, un rôle dans la production Noé d'Essaye-Altounian et un projet artistique avec deux autres castro-gontériens.
Habitants du pays de Mélégret, donnez votre avis sur les enjeux autour de la santé.
Un questionnaire est soumis aux habitants et acteurs locaux. L'objectif, identifier les enjeux et les besoins du territoire en matière de santé avant la signature d'un contrat local de santé. Un projet mené par Toinet Batardière, coordinateur du contrat local de santé de la communauté de communes du pays de Mélégret.
C'est un outil de l'Agence régionale de santé, en fait, qui permet de contractualiser techniquement des actions qui vont être mises en place et donc qui sont portées conjointement par l'Agence régionale de santé et la communauté de communes. Donc globalement, l'idée c'est de réduire tout ce qui touche aux inégalités sociales et territoriales de santé en associant et les habitants et les acteurs locaux, les professionnels de santé à la démarche. Tout d'abord, là, il y a eu une phase qui a été celle d'un diagnostic territorial, donc j'ai commencé à rédiger tout ça, et donc il y a une consultation qui est faite par questionnaire au niveau de la population du territoire et qui sera suivie par des groupes de travail. Ça va toucher un peu à tout. Il va y avoir tout d'abord une partie sur l'état de santé, en fait, un peu général des habitants. Après, il va y avoir des questions sur l'accès aux soins, sur est-ce qu'il y a eu des soucis pour accéder aux soins un jour, est-ce qu'il y a des délais de prise de rendez-vous qui sont trop longs, la télémédecine, etc. L'idée, c'est de repartir de ces données-là liées au questionnaire et de celles que j'ai pu récupérer avant sur toutes les statistiques sur le territoire pour réfléchir avec les participants des groupes de travail aux enjeux et aux besoins du territoire. Il y a quatre thématiques. C'est des thématiques qui sont imposées par l'ARS. En fait, la première est donc celle de la santé-environnement et de la prévention-promotion de la santé. Il y a un autre groupe de travail sur l'accès aux soins et l'offre de santé. Un autre sur les parcours de santé, notamment avec tout ce qui touche à la prise en charge des personnes âgées ou en situation de handicap. Donc ça, c'est les trois qui sont obligatoires. Et il y en a une dernière qui a été sélectionnée sur le territoire, qui est la santé des jeunes. C'est une logique qui se développe beaucoup depuis quelques années, c'est celle de la prévention, justement, qui n'était pas trop présente, on va dire, auparavant. Et les jeunes, c'est un point d'entrée qui est assez important, puisqu'on peut les avoir autant par les associations sportives que culturelles, que par l'école, que par l'éducation familiale. Et donc ça peut être très intéressant de travailler sur ce sujet-là. Comme un peu partout en Mayenne, si on peut dire, il y a quelques professionnels qui manquent sur le territoire. Après, il y a des problématiques aussi liées au transport, vu qu'on est sur un territoire rural. On a des logements qui sont un peu vieux, on va dire, en termes de patrimoine bâti. Les groupes de travail vont se dérouler là jusqu'en avril-mai. Ils vont se réunir 3 ou 4 fois selon les différentes rencontres. Et une fois que tout ça s'est fait, ça passe par la rédaction de fiches action et d'un plan d'action et du contrat local en tant que tel, qui a pour objectif d'être validé d'ici la fin de l'été 2021, donc pour une signature à la rentrée de septembre prochain. Et après, il y aurait donc 3 ans de mise en œuvre des actions qui auront été construites. Ça peut être imaginez créer un répertoire des professionnels, ça peut être à mettre en place des actions de prévention, donc que ce soit au niveau des personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de précarité, ça peut être un peu ce genre d'action.
Vous avez jusqu'au 22 janvier pour remplir le questionnaire à retrouver en mairie, au pôle santé de Mellet et de Gré-en-Bouère, ainsi que sur le site web de la communauté de communes. Avec ses contrats locaux de santé, l'ARS veut couvrir tout le territoire mayennais d'ici 2022. Et puis, un coup de projecteur sur un projet solidaire mené par 4 étudiants mayennais avec l'association Une Enfance au Sénégal. Plus de détails d'ici quelques minutes, juste après Kimber Rose et son titre Mine.
Thank you.
sur l'autre radio avec le titre Mine. Vous écoutez toujours l'agité du local et on parle aujourd'hui à présent donc de quatre étudiants mayennais qui ont voulu soutenir l'association Une Enfance au Sénégal. Pour quel projet, quelles actions, comment peut-on, nous, vous qui les écoutez, les aider? Ce ne sont que quelques-unes des questions que Claire leur a posées.
Une cagnotte participative pour venir en aide à des enfants sénégalais a été lancée par quatre jeunes mayennais et je suis avec les quatre, Lucas Guédon, Lolita Blanc, Alexia Blanchard et Noé Petit. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, comment vous est venue l'idée de cette cagnotte?
Alors moi je me présente, Lucas Guédon, étudiant à l'UIT d'Angers en GEA, donc gestion d'entreprise et administration. Alors tout d'abord, nous est venue l'idée de la cagnotte, puisque avec les conditions sanitaires actuelles, on trouvait compliqué de pouvoir aller démarcher directement les gens, aller faire du porte-à-porte. Donc la cagnotte nous est venue assez naturellement, puisque c'est un moyen de plus en plus utilisé pour récolter des dons. De faire du porte-à-porte, aller voir les gens, était plus compliqué même de pouvoir se promener. Bah, nous, on a commencé notre projet pendant le confinement. Du coup, comme tout le monde, on ne pouvait pas se déplacer, on devait rester chez nous pour respecter les règles. Donc, naturellement, nous est venue la cagnotte.
Et l'idée base d'aider une association, ça vous est venu comment? Est-ce que c'était par rapport à vos études?
Alors oui, en début d'année, à l'UIT d'Angers spécifiquement, ce n'est pas pareil dans tous les IUT, mais on avait un projet tutoré à faire. Donc c'est avec un professeur tuteur qui nous suit, qui nous aide à faire un projet tout au long de l'année. Et du coup, nous est venu à réfléchir sur un projet, une idée qu'on avait envie de défendre. Et est arrivé le projet pour une enfance au Sénégal. Pardon.
Et justement, cette cagnotte, qu'est-ce qu'elle va permettre et vous espérez quel montant?
Alors je me présente, je m'appelle Alexia Blanchard. Je suis une collègue de Lucas, je suis en DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations à Angers. Nous espérons atteindre 10 000, parce qu'un véhicule utilitaire, ça ne s'est pas donné. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait, les enfants qui habitent près du centre, ils y vont à pied, et parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour prendre une calèche ou un taxi. Et du coup, avoir un véhicule utilitaire, ça permettrait d'aller chercher les enfants qui sont plus loin. Car le centre, il ne peut pas toucher tout le monde. Ils sont trop loin, en fait. Et même si les enfants ils ont besoin d'avoir des soins ou des petits déjeuners ou aller à l'hôpital, en ce moment, ils y vont en taxi. Et le prix, ça monte vite.
Cette aide, justement, à ces jeunes enfants, c'est aussi la mission de l'association Pour une enfance au Sénégal. Comment vous avez eu l'idée de vous associer avec eux? Comment ça se passe?
Moi je me présente, donc je m'appelle Lolita, je suis étudiante donc à l'IUT GEA. Donc je suis également donc une camarade de classe à Lucas, Alexia et Noé. Comment nous est venue l'idée donc d'être en partenariat justement avec cette association? C'est tout d'abord en faisant des recherches sur internet. Ensuite on a commencé à regarder donc leur association sur internet et elle nous a vachement plu, donc on a commencé à prendre un premier contact avec un des gérants donc de l'association. Le premier contact s'est super bien passé et c'est pour ça qu'on a voulu continuer donc travailler avec eux. Ils sont très chaleureux et au final ils ont les mêmes visions. Au final l'association va lutter au final contre les mêmes idées que nous, en fait. Et donc au final, on se bat un peu pour la même cause.
Donc pour vous, c'était évident d'aller dans leur sens et de les aider?
Oui, voilà, exactement.
Oui, vous en êtes où dans la cagnotte?
Bonjour, moi je me présente, c'est Noé Petit. Alors on a commencé à mener plusieurs actions pour pouvoir enrichir cette cagnotte. On a démarché déjà plusieurs influenceurs, enfin contactés.
Donc via notre boîte mail, en fait, on s'est chargé d'envoyer un mail à 150 influenceurs et on a eu deux réponses positives, dont une d'un influenceur, Alexandre Villani.
D'accord. Et ça vous avez vu tout de suite l'effet positif de cet influenceur?
Non, pas forcément. Après, il nous a permis d'avoir un peu plus de vues. On va dire que notre projet est un peu plus... qu'il y a un peu plus de personnes, en fait, qui voient notre projet Et voilà, après, il faudrait qu'on essaye de le recontacter pour voir s'il n'y a pas d'autres démarches à faire.
Ça n'a pas été très fructueux. Donc, on a été voir des entreprises, on a posé des affiches pour l'instant dans les villes de Fougères et Mayenne. Et on compte faire à peu près toutes les villes de la Mayenne. Donc, on a atteint pour l'instant 100 € dans la cagnotte, à Après, c'est assez récent, donc on est quand même assez content de ce résultat en peu de temps. Et on espère que ça va grandir.
Et justement, alors, je n'espère pas, hein, je touche du bois, mais imaginons que ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une durée limitée ou est-ce que vous allez laisser la cagnotte ouverte?
Alors, nous, on est là pour un an, la durée de notre première année à l'IUT d'Angers. Et après, ce projet, c'est comme si on le structurait. On va pouvoir le léguer à une prochaine équipe l'année prochaine. Et donc, il n'y a pas réellement de date butoir.
D'accord. Donc, du coup, c'est quand même rassurant, j'imagine, pour vous, de se dire que vous ne faites pas ça pour rien et que ça ne va pas se terminer sur pas assez d'argent ou quoi que ce soit.
Non, non. Donc, pour nous, on le voit comme... on ne peut pas avoir un échec parce qu'on va pouvoir structurer, même si c'est pour l'association et pas un autre groupe après, ça donnera des bases et on aura quand même apporté notre aide d'une façon ou d'une autre.
Vous avez lancé la cagnotte il y a combien de temps ?
On l'a lancé il y a 2 mois à peu près, mois de novembre. Enfin, milieu novembre, on va dire. Et voilà, on est autour des 100 euros récoltés pour le moment.
D'accord, mais c'est un bon début. Vous êtes plutôt satisfait pour l'instant ?
Bon, oui. On y travaille.
Et est-ce que, pour se donner un peu un ordre d'idée, est-ce que vous savez ce que ça peut représenter pour l'association 100 euros ? Qu'est-ce que ça peut permettre ?
Bah, nous, directement, en fait, ce qu'on réalise, c'est pour le projet véhicule, parce que si vous voulez, l'association a plusieurs projets et du coup, elle nous a amené vers le projet véhicule. Du coup, nous, l'objectif, c'est vraiment une cagnotte et même récolter des dons. Donc, on invite les entreprises, les commerçants, tout le monde, même les particuliers à nous faire des dons. Mais nous, c'est vraiment pour le projet véhicule. Après, il faut savoir que si on veut valoriser de l'argent, par exemple, à l'alimentation, qui est très, très recherchée aussi par les enfants, enfin, moins par l'association, il faut savoir que 20 euros de dons, ça correspond à 200 petits déjeuners que l'association peut distribuer aux enfants.
Il faut savoir que pour les personnes qui font des dons, c'est déductible d'impôts.
Oui, il faut savoir que l'association pour une enfance sénégale, c'est une association loi 1901, donc c'est totalement éligible aux déductions d'impôts. C'est comme n'importe quelle association qu'on peut connaître un peu plus grandement, comme l'UNICEF par exemple, ça reste la même façon de faire.
D'accord. Oui, parce que c'est une association française, du coup.
Cette association française, elle travaille en partenariat avec Patrick Vieira, le champion du monde de la Coupe de football du monde de 98.
Justement, cette cagnotte, on la retrouve comment ?
Alors, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site Litchi, c'est une plateforme de cagnotte en ligne, et vous tapez « Pour une enfance au Sénégal » et vous la trouverez.
Alors, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram enfance-au-sénégal. Vous pouvez aussi retrouver l'Instagram de l'association elle-même, pour une enfance tout collé-sénégal, et le Facebook pour une enfance sénégal, où vous trouverez les actualités et des nouveautés, et tout ce qui se passe au Sénégal, à Hambourg, où se base le centre.
On l'a compris, rendez-vous sur le site litchi.com et on tape pour une enfance au Sénégal pour donner un peu de soi à cette cagnotte participative.
Nous remercions les personnes qui nous soutiennent et qui comprennent la cause que nous défendons.
Merci beaucoup à tous les quatre.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis, pour être bien sûr d'avoir la bonne cagnotte, on va mettre le lien sur notre site l'autreradio.fr. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Austerlitz avec Medicine for the Masses.
You
bien toujours sur l'autre radio à écouter l'agité du local. Et comme chaque vendredi, nous faisons un tour du service civique en région avec différents reportages réalisés par les radios associatives des Pays de la Loire. Cap sur l'Île-d'Yeu aujourd'hui en Vendée, où nous rencontrons Anne Lemazon, c'est la directrice de l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu. Elle évoque l'éventuel accueil de volontaires, les missions qui pourraient leur être proposées, mais aussi les avantages et les freins du recrutement.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Durant cette rencontre, Anne Lemazon, directrice de l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu, nous accueille dans les bureaux situés dans l'arrière de Port-Joinville à l'Île-d'Yeu. Anne connaît le principe car d'autres offices de tourisme de la côte vendéenne ont au sein de leur structure des volontaires et sa fille voudrait aussi devenir volontaire.
Alors je l'ai connue parce qu'il y a eu des campagnes de communication sur le service civique dans un premier temps. Et puis j'entendais aussi autour de moi dans les collectivités des embauches qui avaient été faites en service civique. Et puis récemment j'ai ma fille qui m'a dit « Tiens maman, je ferais bien un service civique ». Donc voilà, finalement c'est un système que je connais.
Votre fille a trouvé un service civique ?
Non, pour l'instant, alors elle se renseignait, mais c'est vrai qu'il y a une offre assez importante et elle pense pouvoir trouver et cumuler en fait avec sa formation parce que c'est cumulable aussi avec sa formation universitaire.
Dans quelle branche elle recherche ?
Alors plutôt dans le social, service civique quand même, c'est dans des domaines bien précis. Il y a le domaine de la culture, des loisirs, de la citoyenneté, de l'éducation. C'est vraiment le service auprès des autres, quoi.
Pour le moment, l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu n'a jamais recruté de volontaires, mais ne l'exclut pas.
Nous n'avons jamais recruté en service civique, puisque nous sommes plutôt dans le dispositif de contrat d'apprentissage. Nous recevons des BTS tourisme sur 2 ans pour leur permettre effectivement d'allier pratique et puis théorie dans le cadre de leur BTS.
L'intérêt général est au cœur des différentes missions qui pourraient être proposées durant l'accueil d'une ou d'un service civique volontaire à l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu.
Ce serait surtout en service public, puisque si j'ai bien compris, il faut quand même que ce soit au service des autres. Donc ce serait vraiment l'accueil du client, ça pourrait être l'accueil itinérant, les accueils gourmands aussi l'été. Voilà, ça pourrait vraiment rentrer dans ce cadre-là. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ce serait un peu compliqué parce qu'on manque de place. Et puis, avec le Covid, on est obligé d'avoir la distanciation, etc. Mais je ne dis pas que dans les années à venir, c'est pas quelque chose que je mettrai en place. Parce qu'effectivement, j'ai vu les conditions, je ne les connaissais pas vraiment. Et je pense que ça peut être un tremplin pour les jeunes, pour une expérience professionnelle, en tout cas.
Pour Anne Lemazon, directrice de l'Office de tourisme de l'Île-d'Yeu, il y a un véritable frein à l'accueil d'un volontaire en service civique, mais cela peut aussi faire partie de la mission.
Le principal frein, j'ai envie de dire, c'est le logement ici. Après, il y a aussi la prise de conscience qu'on est sur une île et qu'on ne va pas rentrer tous les jours à la maison. Donc, il faut rester une semaine. Mais voilà, cette prise de conscience. Mais c'est aussi ça l'expérience, finalement, dans le cadre d'un service civique. C'est de complètement se détacher d'un milieu qu'on connaît pour venir vivre sur une île et comprendre un peu comment on vit sur une île.
Autre frein sur l'Île-d'Yeu, le dispositif est peu connu.
J'ai pas l'impression, parce qu'on n'en discute pas tellement. Je crois qu'à la radio Neptune, récemment, justement, vous avez embauché quelqu'un. Après, je ne sais pas si on en a beaucoup dans la collectivité. Je n'ai pas l'impression.
Laurent, Radio Neptune FM, à l'Île-d'Yeu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et le bruit de la mer que vous entendez, hein, peut-être pour être encore un peu plus à l'Île-Dieu. La semaine prochaine, pas de mer, mais du local, puisque vous entendrez le portrait de volontaires et d'accompagnants ici en Mayenne. Des objets pour un monde de Soisic, ce sont les mille et une histoires à travers le monde de nos objets du quotidien. Et voici, je vous laisse découvrir, la chronique de ce vendredi. Bonjour Soisic, pour cette dernière chronique de la semaine, vous nous parlez aujourd'hui des baguettes chinoises.
Et oui, ce matin, allons faire un petit tour en Chine pour parler non pas de la Covid, mais d'un sujet bien plus réjouissant, les baguettes chinoises. Alors, on en trouve des traces dès le 4e siècle en Chine, mais la baguette chinoise fait son entrée en Europe en 1842 à Londres, lors de l'exposition qui s'appelle « 10 000 choses chinoises ». L'événement marque son temps, car à cette époque, la Chine était complètement fermée aux Occidentaux. Autant vous dire que le pays incarnait alors le fantasme d'un monde radicalement différent et la baguette fleurait bon l'exotisme. Bien sûr, le maniement de la baguette par les Occidentaux n'était pas facile. Or, tous les candidats au voyage, interdits donc en Chine, devaient se fondre parfaitement dans le paysage chinois. Il fallait en adopter la tenue, la langue et manger à la baguette. Autant vous dire qu'un tel voyage se méritait. On retrouve d'ailleurs des témoignages d'aventuriers préférant sauter des repas plutôt que d'être découverts lors d'un mauvais maniement de l'outil. La baguette s'internationalise au XXe siècle. Les diasporas chinoises vont en effet l'emporter avec elle aux États-Unis lors de la ruée vers l'or, en Europe lors de la Première Guerre mondiale et un peu partout dans le monde dans les années 70 avec l'exil des réfugiés de la Chine communiste. Mais la baguette chinoise, certes appréciée pour l'imaginaire qu'elle suscite, pose en Occident un sacré problème d'hygiène. En effet, les Chinois utilisent la même baguette pour se servir dans les plats communs que pour porter la nourriture à la bouche, partageant ainsi les agapes, mais également les virus, déjà à l'époque. Voyez. Alors, les médecins occidentaux ne tardent pas à imputer de nombreuses maladies, et notamment les vers intestinaux que l'on retrouve partout en Chine, aux fameuses baguettes. Pour y pallier, la baguette jetable, apparue au Japon dès le XVIIIe siècle, colonise les tables des restaurants asiatiques dans le monde entier. C'est ainsi qu'en 1990, plus du tiers des restaurants dans le monde sont des restaurants chinois, ce qui vous donne une idée du nombre de baguettes proposées chaque jour, mais aussi, revers de la médaille, également jetées. Car aujourd'hui, le problème écologique a remplacé le problème sanitaire avec près de 100 milliards de pièces jetées chaque année. Alors aujourd'hui, les baguettes chinoises ne revêtent plus l'exotisme du début du XXe siècle parce que leur utilisation est devenue banale, comme une habitude répandue sur tous les continents du monde. Et d'ailleurs, finalement, Marie, n'est-ce pas à l'aune de cette banalisation et de cette habituation que nous pouvons dire d'un objet qu'il appartient de façon certaine aux grands magasins du monde ?
Exactement, Soisic. Merci beaucoup pour cette nouvelle chronique. On vous retrouve désormais la semaine prochaine. Et on termine cette émission avec notre rubrique initiative proposée par Claire. Et on va commencer par un jeune de Loubrière, qui a créé un site internet.
Et oui, c'est Noah Ferron et il a 17 ans. Il a créé fin 2020 petitjob.com, un site pour mettre en relation les particuliers, mais aussi dans cette période de crise sanitaire, les commerçants. Ainsi, si vous avez besoin d'un coup de main pour votre vitrine, votre carte professionnelle ou votre propre site internet, vous pouvez y déposer une annonce. Noah est encore lycéen, donc il n'a pas encore fini totalement le site, mais vous pouvez déjà vous y rendre, petit-job.com.
Et la ville de Laval propose un dictionnaire pas comme les autres.
Et oui, c'est le Dicopat, un petit dictionnaire d'architecture en se basant sur le patrimoine lavallois. Pour le chef du service médiation et patrimoine de la ville, Stéphane Hilland, c'est un projet qui va aboutir, mais en attendant, c'est en avant-première qu'on peut le découvrir et c'est sur Facebook, sur le compte Laval Patrimoine. On découvre donc la lettre A comme abside, la partie saillante d'un bâtiment, généralement d'une église, qui présente au sol un plan semi-circulaire. L'explication est accompagnée d'une photo, ici le prieuré Saint-Martin, à suivre donc sur Facebook Laval Patrimoine.
C'est noté Claire, merci beaucoup. Et ça tombe bien, nous aussi nous sommes sur Facebook et Twitter, vous pouvez nous suivre, vous suivez tout simplement l'autre radio. Et c'est déjà la fin de notre émission L'AJT du local pour cette semaine. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie et bon week-end tout le monde.
Merci, bon week-end à toi aussi. Mais les auditeurs, ne partez pas, puisqu'à suivre à l'antenne à 20h, il y a Passe-moi le thème dédié à une belle rétrospective musicale de l'année 1971. Et nous, on se retrouve lundi à 12h15, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.